Radio Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition d'information. Je suis Gisèle Cage, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres. Goma, les enseignants privés des salaires à cause de la panne Vodacom. La Focinat alerte sur un risque de paralysie des cours alors que des centaines d'enseignants restent incapables d'accéder à leur rémunération via M-Pesa. Sud Kivu, les combats reprennent dans le plateau d'Uvira et de Fizi. L'AFC M23 lance une nouvelle offensive contre le Wazalendo et les FARDC, provoquant une flambée de violence dans le moyen et au plateau. Grand entretien en fin d'édition. Le docteur Christian Massoudi, épidémiologiste à Médecins Sans Frontières, fait le point sur les actions menées dans la Grande Orientale. Pour ouvrir ce journal, direction Goma, au Nord Kivu, une inquiétude grandissante secoue les secteurs de l'éducation. Les enseignants ne parviennent toujours pas à accéder à leur salaire du mois de janvier. Des rémunérations pourtant bel et bien versées mais bloquées sur M-Pesa depuis la panne du réseau Vodacom. Conséquence, plusieurs centaines d'enseignants se retrouvent dans l'impossibilité de toucher leur dû. Une situation qui pourrait sérieusement compromettre la reprise des cours dans les écoles public. La Focinat, elle, parle d'un risque réel de paralysie si la situation perdure. Face à cette crise, le président provincial du syndicat au Nord Kivu, Innocent Chama Vubala, appelle les autorités à intervenir de toute urgence pour établir les réseaux et éviter une escalade des tensions. On l'écoute.
Ici, nous avons la BOA qui paye les 98% de tous les enseignants des écoles secondaires et 40% des bureaux gestionnaires. Leur argent passe par Mobile Money et tout ça, c'est via la SIM card Vodacom. Nous avons aussi la TID qui a pris la paye de l'Access Bank récemment et tous les salaires des enseignants des écoles primaires et les 60% des bureaux gestionnaires qui sont payés à la TID, leur argent aussi passe par MPC. Ça. Et donc, lorsque la connexion Vodacom est coupée, nous disons que c'est couper la vie de tous les enseignants sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu, une grande partie de Rutshuru, une grande partie de Masisi et presque toute la ville de Goma. C'est ainsi que nous demandons à toutes les autorités au niveau du ministère des réseaux et télécommunications de s'impliquer pour l'ouverture de la connexion Vodacom qui risque de causer des problèmes pour le bon fonctionnement de l'éducation de nos enfants.
Pour rappel, tout est parti du lundi 26 janvier 2026 suite à une intrusion d'individus non identifiés dans son centre technique à Goma. Vodacom Congo a été contraint de couper brutalement l'ensemble de ses services. Internet, messagerie, appel, mais aussi M-Pesa dans tout le Nord Kivu et plusieurs zones voisines. L'opérateur avait assuré que ses équipes étaient à pied d'œuvre pour un rétablissement rapide. Pourtant, quatre jours plus tard, à Goma, les cartes SIM, Vodacom reste toujours muette. Aucun signal, aucune connexion. À Kolwezi, dans la province du Lualaba, la mairie a dévoilé mardi sa nouvelle nomenclature des taxes urbaines pour l'exercice 2026. Une édition marquée par un tournant majeur, la digitalisation du système fiscal local. Objectif affiché, réduire les fuites, renforcer la transparence et améliorer la mobilisation de recettes destinées au financement des projets de développement. Concrètement, chaque contribution sera désormais identifié par un code unique et tous les paiements effectués au guichet unique de la mairie seront entièrement tracés. Lors de la cérémonie du lancement, le maire Jacques Masengo Kindele a appelé le service percepteur à une gestion rigoureuse et transparente des recettes. Même message à l'endroit des nouvelles recrues du service aux partenaires chargés de la digitalisation. On écoute Jacques Masengo Kindele au micro de Paulin Munanga.
Les taxes nous donnent les moyens de notre politique. Nous venons de lancer notre nomenclature. Ne soyez pas complaisants sur terrain. Parce que tout ce que vous allez faire, nous serons informés à la minute. C'est ça la digitalisation. Nous avons beaucoup de projets de développement pour la ville de Kolwezi, pour la population de Kolwezi. C'est là que la population nous attend. Notre chef de l'État Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu, il est allé inaugurer un grand ouvrage en faveur de la jeunesse étudiantine, l'Université de Kananga. C'est des projets ambitieux qui nécessitent être soutenus aussi par des micro-projets dans nos différentes entités. Donc la vision, c'est lui qui la donne et nous, nous la partageons avec la population dans nos entités respectives. Et cela passe par le travail que vous êtes appelés à faire, la mobilisation des recettes.
À Kinshasa, une conférence consacrée à la préparation, à l'investissement s'est tenue hier mercredi avec une ambition claire, attirer davantage d'investisseurs et mieux outiller les entreprises congolaises pour accéder au financement. L'initiative est pilotée par l'organisation américaine Congo River Capital avec le soutien de l'ambassade des États-Unis. Mais pourquoi cette démarche est-elle stratégique pour l'économie congolaise? Les éclairages de Nancy Antambo.
Pour les organisateurs, un pays comme la RDC qui veut se développer a besoin d'investisseurs et de capitaux. Or, en 2024 par exemple, le pays n'a capté que 0,2% de tous les capitaux risques dirigés vers le continent africain. C'est ainsi que les organisateurs se fixent pour objectif avec les entrepreneurs congolais de combler cet écart de financement. Milen Fayoulou, co-organisateur de la conférence, explique.
Des décideurs publics, des entrepreneurs, des entreprises, des fonds d'investissement. Ce forum les met en relation et nous permet de mutualiser nos efforts afin de vraiment matérialiser le potentiel de la RDC.
Les participants, en majorité des responsables d'entreprises et des banques, saluent cette initiative d'orienter les entreprises congolaises à saisir les opportunités qui leur sont offertes.
Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer avec les décideurs qui nous ont partagé leur vision qu'ils ont sur l'entrepreneuriat au niveau de la RDC. Nous avons vu à travers la session d'aujourd'hui qui a accès aux capitaux, mais c'est un problème beaucoup plus de structuration.
À travers cette conférence, les États-Unis et les entrepreneurs congolais réaffirment leur engagement à promouvoir le développement économique de la République démocratique du Congo.
Au sud Kivu, la tension remonte d'un cran. Des nouveaux combats ont éclaté dans les moyens et au plateau des territoires d'Uvira et de Fizi. Hier, les rebelles de la AFC M23 ont lancé une offensive depuis la localité des Mugaja, visant les positions de Wazalendo à Kahamba et Kachatu dans les moyens plateaux. Une autre attaque a été enregistrée le long de la route nationale numéro 5 à Runingu et Biriba, dans la plaine de la Ruzizi. Pendant ces temps, dans le haut plateau, les combats se poursuivent entre l'AFC M23 et les FARDC, appuyés par les forces d'autodéfense locales. Plus de détails avec Élise Kavira.
Plusieurs sources dans le mouvement citoyen de lutte contre les antivaleurs pour un Congo émergent, MCLA, confirment le renforcement des troupes de l'AFC M23 dans la plaine de la Ruzizi, ainsi que dans les moyens et hauts plateaux des territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Parallèlement, la Ligue des Indignés pour la Citoyenneté Responsable signale que les troupes armées Turwanero, Red Tabara, Ngumino et Android, affiliées au M23, intensifient les affrontements contre la coalition FARDC Wazalendo dans les hauts plateaux vers Minembwe. Ces structures citoyennes alertent l'opinion nationale et internationale sur le fait que malgré le retrait annoncé dans la ville d'Uvira, les rebelles continuent de renforcer leurs dispositifs dans les périphéries de Kitundu et vers Mulenge dans les hauts plateaux de Fizi. Selon le mouvement citoyen de lutte contre les antivaleurs, ces affrontements empêchent les déplacés internes de regagner leur village malgré les conditions difficiles qu'ils endurent dans leur milieu d'accueil.
Dans la province du Maniema, les habitants des groupements Kulu et Kasenga sont appelés à regagner leur village. L'annonce vient du chef de secteur de Wasongola après les affrontements qui ont opposé la semaine dernière les Wazalendo et FARDC. Frédéric Boutikila assure que le calme est désormais revenu dans la zone grâce à l'intervention de l'armée qui en a repris le contrôle. Il salue par ailleurs l'engagement des autorités locales et des élus des Kailo, dont les efforts de restauration de la paix. On écoute Frédéric Boutikila, joint par Florence Kizalunga.
La population du groupement Kulwe-Kasenga est informée de la situation sécuritaire et désormais maîtrisée sur toute l'étendue de leurs villages respectifs. Par conséquent, nous appelons une fois de plus toute la population à regagner leurs villages, à reprendre librement leurs activités quotidiennes et à permettre à nos enfants de retourner à l'école. À cet effet, nous adressons nos sincères remerciements à Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province du Maniema, ainsi qu'à l'ensemble des membres du Conseil provincial de sécurité pour avoir prêté une oreille attentive au cri de détresse de la population des groupements cités ci-haut. Nous félicitons également le professionnalisme et le courage de nos frères de C pour les opérations menées avec succès. À ce jour, tous les villages sont libérés et la sécurité est pleinement assurée. Par ailleurs, nous saluons l'implication remarquable des élus du territoire de Kailo ayant conduit au retour de la paix dans notre milieu.
En Ituri, 30 nouveaux officiers de police judiciaire à compétence générale viennent de prêter serment devant le procureur général près le tribunal de grande instance de Bounia. Cette cérémonie marque la fin d'une formation de 2 mois organisée dans la ville, un programme appuyé par l'Union européenne dont l'objectif est de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité et d'améliorer la protection des populations et de leurs biens dans un contexte toujours fragilisé par l'activisme de groupes armés. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Du 20 octobre 2025 au 20 janvier 2026, 14 formateurs ont dispensé 17 matières aux apprenants issus des territoires d'Iromou, de Mambasa et de la ville de Bounia. Pour l'Union européenne, l'objectif est de renforcer l'efficacité des services de sécurité et de justice afin de mieux sécuriser la population. Madame Aurore de Carnière, attachée de coopération à l'Union européenne à Kinshasa.
Votre travail est essentiel pour lutter contre les groupes armés, contre la contrebande, les trafics, protéger la faune et la flore exceptionnelle de ce pays, en étant capable d'intercepter les criminels potentiels, mais également aussi protéger les femmes et les enfants.
De son côté, Gloria Bassi, président du Parlement des jeunes de l'Ituri, estime que la population de l'Ituri attend désormais de ses nouveaux officiers un travail marqué par le professionnalisme.
La zone où nous sommes est affectée par plusieurs exactions des droits humains. Il va falloir à ce qu'il y ait une police qui doit être à côté de la justice afin d'arrêter tous ceux qui sont comme porteurs des troubles dans nos entités en Ituri. Non, une police qui doit continuer à ravir des téléphones ou encore à aller à la contre de ces formations qu'ils ont pu recevoir.
Ce programme prévoit également la construction de 9 infrastructures policières et la formation de 225 nouvelles recrues. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
Santé publique. Dans la province de l'Équateur, une vaste campagne de vaccination contre la poliomyélite vient de démarrer. Au total, 648 825 enfants âgés de 0 à 5 ans sont visés pour cette première phase déployée dans les 18 zones de santé de la province. Le lancement officiel a eu lieu mercredi en Mbandaka sous la houlette du gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. Il a appelé les parents à ouvrir leurs portes aux équipes de vaccination afin de protéger la santé des tout petits et d'éradiquer la maladie. Les détails avec Askan Zibiatayoro.
Cette campagne concerne 2 provinces, notamment la Tchouapa et l'Équateur. Selon les données du ministère de la Santé, organisateur de la dite campagne, un cas de poliomyélite sauvage a été enregistré en décembre 2025 dans la zone de santé de Boende, en province de la Tchouapa. Par ailleurs, dans la province voisine de l'Équateur, un cas de poliomyélite non circulant a été notifié en 2025 dans la zone de santé de Lutumbe. Lors du lancement, le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, a rappelé qu'un cas de poliomyélite avait été enregistré en 2023 ainsi que 42 autres cas notifiés en 2020 dans sa province. Pour la province de l'Équateur, l'objectif de la campagne est de vacciner 648 825 enfants de 0 à 5 ans dans les 18 zones de santé. L'autorité provinciale a exhorté tous les parents et tuteurs à recevoir les équipes de vaccination à domicile du 29 au 31 janvier 2026 afin d'assurer la protection de tous les enfants concernés. Il convient de noter que cette campagne de vaccination est organisée par le ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale à travers le programme élargi de vaccination PEV. Elle bénéficie de l'appui du gouvernement provincial de l'Équateur et de plusieurs partenaires dont l'OMS, CDC, Rotary International et Gates International.
environnement dans les territoires de Luebo, dans la province du Kasaï. La situation devient alarmante. Les têtes d'érosion gagnent du terrain et menacent sérieusement l'existence même de la localité. La société civile tire la sonnette d'alarme face à l'ampleur des dégâts déjà observés. Plusieurs maisons ont déjà été englouties, tout comme les bâtiments publics, sans aucune intervention des autorités jusqu'ici. Face à ces tableaux jugés préoccupants, la société civile appelle le gouvernement provincial et national à agir en urgence et à lancer des travaux, des luttes anti-érosives pour sauver Luebo d'une disparition annoncée. Détail avec André Katende Galamoulou.
D'après la communauté des Luebo basée à Chikapa, une dizaine de têtes d'érosion menacent actuellement le territoire. Dans un message adressé au chef de l'État, le président de cette structure, Adonis Tujibikile, avertit que, sans une intervention urgente, Luebo risque de disparaître.
Nous traversons des moments difficiles. Les érosions qui risquent de faire disparaître Luebo sur la carte de notre pays. Sollicitons l'intervention du gouvernement central et du gouvernement provincial.
Cette information est confirmée par Basile Mbanza Kapiamba, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise de Luebo. Il souligne que plusieurs maisons et infrastructures publiques ont déjà été englouties, tandis que les routes de la région sont fortement endommagées.
Des grandes érosions ont déjà englouti des habitations, des infrastructures publiques et privées et continuent de progresser dangereusement.
Outre la menace des têtes d'érosion, le territoire de Luebo est également confronté à des graves difficultés liées à l'état de ses routes de desserte agricole, ce qui entrave l'évacuation des produits et affecte l'économie locale. Kananga, André Katendengalamoulme, Radio Kapi.
Actualité internationale.
À 2 mois de l'élection présidentielle au Bénin, Amnesty International Bénin, en collaboration avec une quinzaine d'organisations de la société civile, a rendu public un manifeste invitant les prétendants au scrutin de 2026 à s'engager clairement en faveur de la protection et de la promotion de droits humains. Le document présenté hier mercredi à Cotonou dresse un état des lieux préoccupant et formule plusieurs recommandations. Parmi les priorités, assurer la liberté de réunion et de manifestation, mettre fin aux détentions arbitraires, accélérer les procédures judiciaires et lutter contre toute forme de discrimination. Selon les directeurs d'Amnesty International Bénin, l'espace civique s'est considérablement rétréci ces dernières années. Il évoque notamment les vagues arrestations, les suspensions des médias, la surpopulation carcérale, la détention des figures de l'opposition, ainsi que les restrictions imposées aux droits de grève et de manifestation. Face à cette situation, il appelle à garantir pleinement les libertés d'expression. L'association et des réunions pacifiques a amélioré les conditions de détention et à ouvrir des enquêtes sur les allégations de torture et des mauvais traitements concernant la surpopulation carcérale. Amnesty recommande que la détention provisoire ne soit utilisée qu'en dernier recours.
L'invité.
Nous recevons aujourd'hui le docteur Christian Massoudi, épidémiologiste au sein de Médecins sans frontières à Kisangani, dans la province de la Tchopo. Il nous présente le bilan des actions menées par MSF dans l'espace Grand Oriental en 2025, évoque les obstacles auxquels les équipes ont été confrontées et partage les priorités envisagées pour 2026. Le docteur Christian Massoudi est au micro de Jacques Moukonkole. Suivez.
Docteur, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir du bilan d'activité 2025 pour MSF dans sa zone d'intervention, dans la Grande Orientale?
C'est vraiment un bilan très positif, parce que si on prend la Tchopo, c'était vraiment une année très atypique. Après un moment d'intervalle interépidémique très très éloigné pour ce qui concerne la pathologie choléra, il y avait encore résurgence des épidémies, et du coup avec plus de 50% des zones de santé qui étaient en épidémie de choléra, mais on a pu faire les niais pour pouvoir intervenir dans 13 zones de santé. Il y a aussi d'autres urgences que les Ituriens ont profité au sein des MSF. Que ce soit le mouvement de la population, on a donné notre réponse malgré l'accessibilité qui était très compliquée pour arriver jusqu'à Zapaï, à la frontière avec la République centrafricaine.
Quelles sont les maladies les plus récurrentes dans toutes ces zones?
Ce sont des maladies émergentes et réémergentes, telles que les zoonoses, surtout la Mpox. Et à part la Mpox, il y a toujours cette problématique de la rougeole, parce que nul n'ignore, à partir de 2019, il y a les pays qui continuent toujours à faire face aux résurgences contre la rougeole, malgré les interventions de grande envergure qui sont prises en compte par les gouvernements Et il y a la rougeole qui continue toujours à battre record dans nos zones d'intervention, dans les quatre DPS de l'ex-oriental.
Quelle a été l'efficacité de la réponse vaccinale dans toutes ces zones?
Je peux dire que l'efficacité de la réponse vaccinale était bonne, parce que parfois ce sont des zones de santé axées très très difficiles. MSF dispose d'une logistique quand même à mesure de faire face, qui puisse atteindre même les campements ou les îlots très très éloignés. Et avec nos stratégies de vaccination, on parvient quand même à vacciner toute la cible.
Donc, dans la Grande Orientale, l'épicentre des besoins humanitaires reste l'Ituri. Comment MSF a-t-il adapté sa réponse face à l'insécurité, notamment pour les déplacés internes?
Pour les déplacés internes, il y a toujours cette collaboration avec les autorités locales qui sont censées sécuriser les équipes lors des descentes sur terrain. Et c'était le cas. La collaboration reste toujours très très bonne, malgré l'insécurité qui se passe. Et puis, il y a aussi existence des projets réguliers qui agissent, par exemple, à Drodro, où nous supportons les camps de déplacés d'Iro, avec plus de 10 000 personnes qui y vivent à l'intérieur. On est à Angoumou, avec certaines zones, et avec la présence des groupes armés tels que les Codeco, les Zaïr, mais on parvient quand même à faire quelque chose. Donc, il y a cette implication communautaire et des autorités locales qui s'efforcent vraiment de sécuriser les équipes sur terrain.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés au cours de l'année 2025?
Il y a premièrement cette difficulté en termes d'accès, ça c'est un. L'ex-province orientale, c'est presque un pays, c'est plus que la France même en termes de dimension. Avec 83 zones de santé, ce n'est pas facile en termes de surveillance. Donc il peut y avoir des alertes qui puissent même échapper du côté du ministère et qui échappent aussi du côté des partenaires. Donc l'accessibilité paraît comme étant la première difficulté. À part ça, la deuxième difficulté, c'est la faible couverture en réseau téléphonique pour pouvoir parfaire vraiment notre système de surveillance. Et la troisième difficulté, c'est l'insécurité dans nos zones d'intervention. Donc, il y a certaines zones de santé parfois qui atteignent les seuils d'évaluation ou les seuils d'intervention, mais suite au contexte sécuritaire, parfois c'est no-go.
Quelle perspective pour l'année 2026?
Étant un projet d'urgence en termes de perspectives, on doit toujours faire suivre les axes. Le premier axe, c'est l'axe réactif. Quand il y a épidémie, il faudrait qu'on puisse renforcer notre système de surveillance, bien qu'il y a des défis dans les 83 zones de santé. Et c'est comme ça qu'on pense même renforcer les points focaux de surveillance. En 2025, pardon, ils étaient au nombre de 17, mais en 2026, il faudrait qu'on puisse les rajouter au nombre de 26. Donc il y a certaines zones de santé qu'on considère comme étant à risque, qui seront couvertes par les points focaux, pour essayer de capter un peu le maximum des informations. Et à part ça, et on est dans la stratégie préventive, c'est quoi? On s'est rendu compte que non, il faut renforcer aussi la couverture vaccinale en période de routine, parce qu'en faisant ces renforcements, ça va nous permettre aussi d'élargir les intervalles interépidémiques.
Docteur, merci.
Merci beaucoup.
Le docteur Christian Massoudi, épidémiologiste au sein de Médecins Sans Frontières à Kisangani. Merci à lui pour ses éclairages sur les actions menées dans l'espace Grande Orientale et sur les perspectives pour l'année 2026. Merci d'avoir suivi ce journal de 18h à la mise en onde aujourd'hui André Mungu Ebaye, à la coordination Richard Junior Kamunga. Et cette édition vous a été présentée par Gisèle Cage. Pour des informations détaillées, n'hésitez pas à consulter nos différentes plateformes et vous pouvez également réécouter ce journal des 18h en podcast sur notre site. Merci de votre fidélité et très bonne soirée à vous.